France Culture.
Les midis de culture, ça continue. Et si vous nous rejoignez maintenant, sachez qu'à 13h, comme promis, je recevrai Alice Zeniter. On parlera de son adaptation sur scène du roman Martin Eden. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Le grand auteur japonais Yukio Mishima aurait eu 100 ans, connu autant pour son œuvre littéraire que pour son suicide spectaculaire. L'auteur fascine toujours des générations de lecteurs et d'artistes qui s'emparent un peu partout dans le monde de la langue de l'auteur. Sachant que seulement 10% de l'œuvre de Mishima est traduite en français, un continent littéraire reste à découvrir pour ses admirateurs francophones. L'influence de l'œuvre de Mishima, c'est le dossier du Point Culture du jour. Thomas Garcin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise à Tokyo. Comment l'œuvre de Mishima est-elle perçue aujourd'hui au Japon? Est-ce que ses romans sont devenus des classiques?
Alors, la perception de Mishima au Japon, elle est complexe. Comparaison n'est pas raison, mais par certains côtés, le cas Céline en France est similaire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est quelqu'un qui est reconnu comme étant un très grand écrivain, un très grand styliste, et en même temps, il y a quand même toujours cette odeur de soufre qui l'entoure. Et ça continue aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu atténué par rapport à il y a 20, 30 ans, mais ça c'est quand même quelque chose qui n'a pas disparu. Et par exemple, les textes de Mishima seront moins facilement lus à l'école, pour donner un exemple très concret.
Et est-ce qu'il y a justement une école d'écrivains japonais qui se revendique aujourd'hui de Mishima dans les écrivains contemporains?
Une école, non, je dirais pas jusque-là. Par contre, il y a des écrivains qui, oui, le mentionnent. On a le cas notamment de Hirano Keiichiro. Nous, pour le centenaire de la naissance de Mishima à l'Institut français de recherche sur le Japon, à la Maison franco-japonaise, on avait fait un événement où justement lui était présent dans le cadre d'un dialogue avec un styliste graphiste, Yoko Tadanori, qui a bien connu Mishima. Mais une école, non. C'est des écrivains qui, à l'échelle individuelle, voilà, vont se réclamer de Mishima, ce qui implique souvent l'idée qu'on a un style particulièrement travaillé, ou un peu plus exigeant en tout cas, d'un point de vue littéraire, mais d'école, non, je ne dirais pas.
Est-ce que l'engagement politique de Mishima résonne aujourd'hui particulièrement au Japon dans une certaine strate de la société, ou pas du tout?
Non, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des groupuscules qui se réclament un petit peu de Mishima et qui ont une orientation politique très marquée. Par exemple, pour la naissance ou pour la mort de Mishima, ou à des dates anniversaires, vous allez avoir effectivement des cercles qui sont à la fois culturels, mais qui ont en fait une orientation politique assez marquée. Mais c'est minoritaire, c'est quand même pas...
À l'occasion du centenaire, justement, ressort en salle une version restaurée de l'adaptation de son roman, peut-être le plus célèbre, hein, Le Pavillon d'or, réalisé en 1958 par Kon Ishigawa. Comment expliquez-vous la fascination toujours intacte des lecteurs devant ce roman, Le Pavillon d'or? Qu'est-ce qu'il a de si spécial?
Le Pavillon d'or, il est assez symbolique, en fait. Il incarne bien, finalement, les qualités de Mishima qu'on retrouve dans beaucoup d'autres œuvres. Mais à la fois, c'est un roman qui, d'abord, d'un point de vue stylistique, est très travaillé et très écrit. Donc, c'est quand même un écrivain qui a une plume très riche, qui fait partie de ces grands prosateurs du Japon d'après-guerre. Et c'est peut-être même le plus grand, ou en tout cas celui qui a la palette lexicale, littéraire la plus riche. Ensuite, c'est aussi un roman qui est exigeant d'un point de vue intellectuel. C'est un roman qui est quand même extrêmement bien construit, dont qui arrive à une sorte de paroxysme. En tout cas, où toute la structure est pensée de façon presque optique, avec quelque chose de très dynamique. Donc ça, c'est vrai que c'est un des éléments qui fait que la littérature de Mishima fascine, c'est parce qu'il a cette capacité à jouer sur beaucoup de plans différents avec une aisance assez surprenante.
C'est par ce roman-là que vous conseillez de commencer quand on n'a pas encore entamé l'œuvre de Mishima?
Quand on est français, oui, tout simplement, parce que c'est un roman dont la traduction est d'excellente qualité. C'est le premier roman qui a été traduit de Mishima en France, mais il a été traduit du japonais, directement du japonais, et par un excellent traducteur. Donc oui, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Oui.
Alors, on parlait là de l'œuvre de Mishima, mais il y a aussi sa vie qui explique, j'imagine, son aura. En plus d'être écrivain, il était aussi acteur, mannequin, activiste, on l'a dit. Et sa mort, bien sûr, il commet le seppuku, ce suicide rituel par éventration. Est-ce que c'est aussi cette personnalité un peu hors du commun que l'on commémore aujourd'hui ?
Bah, j'espère par certains côtés que non, parce que de mon point de vue, si vous voulez, la mort de Mishima a eu un effet négatif sur la réception de son œuvre. D'abord, il faut quand même rappeler que son engagement ultranationaliste, il n'intervient que dans toute fin de sa vie. Hein, c'est que les 3 ou 4 dernières années de sa vie qui sont marquées par cette sorte d'engagement politique qui est par certains côtés plus une sorte de performance. Et que ça a été un prisme qui a un peu aplati l'œuvre, qui est extrêmement complexe. Donc, je préfère penser qu'on commémore d'autres choses. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est au Japon est quand même assez marquant. Et je pense aussi maintenant dans le reste du monde, c'est que c'est plutôt la diversité, la richesse, les aspects un peu surprenants, comiques, inattendus de Mishima, qui sont enfin vu et considéré.
Peut-être un mot sur la langue, comment vous pourriez nous la décrire, le style de Mishima, à quoi il correspond ?
Pour des Français, je crois que s'il fallait faire une comparaison, enfin en tout cas c'est mon point de vue, ça serait peut-être un peu les écrivains qu'on appelle des fois l'école décadente de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire des écrivains comme Huysmans, des écrivains comme Léon Blois, des écrivains qui ont comme ça une palette lexicale extrêmement riche, extrêmement dense. Mais en même temps, en plus de ça, chez Mishima, il y a la qualité de la construction, la qualité de la structure de ses romans. Voilà, si je devais donner en tout cas des comparaisons, c'est peut-être vers ces écrivains-là français que j'orienterais les lecteurs français. C'est un style qui textuellement est très riche et il y a une sorte de tissu comme ça du texte qui est extrêmement dense.
Je parlais de la version restaurée du Pavillon d'Or. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup d'adaptations des textes de Mishima vers d'autres arts, le cinéma ou autre ?
Oui, il y a eu d'ailleurs il y a quelques années une adaptation du film du roman Utsukushi Roshi qui n'a pas été encore traduit en français mais que nous sommes en train de traduire actuellement et qui, je l'espère, sortira avant la fin de l'année.
Qui s'appellerait comment en français ?
Alors, on n'a pas encore le titre définitif. Ça a été traduit en anglais par Beautiful Star.
Okay.
Mais je ne suis pas complètement convaincu par ce titre, parce qu'en fait, la Roshi, qui veut dire étoile, veut aussi dire planète. Donc, en fait, ça désigne plutôt la Terre qu'une étoile. Mais voilà, c'est un roman de science-fiction un peu déjanté de Mishima qui contribue justement à donner une nouvelle image. Et lui, il a été par exemple adapté en film au Japon il y a 3-4 ans. En théâtre, il y a beaucoup de choses. Il y a des adaptations nouvelles, aussi des fois en kabuki, aussi bien dans le théâtre contemporain que dans les formes théâtrales plus classiques. Donc Mishima continue à être une source d'inspiration pour énormément d'artistes. Même s'il n'a pas une école proprement dite de gens qui se réclament de lui et qui constituent un groupe, clairement énormément d'artistes continuent à être influencés par son œuvre.
Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur Mishima, Thomas Garcin. Merci.
C'est moi.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, les archives du compositeur Arnold Schoenberg ont été emportées dans les incendies de Los Angeles.
Oui, alors que les feux continuent à dévaster la Californie, le fils du musicien autrichien Schoenberg a annoncé qu'une partie des archives de son père, dont des manuscrits et des partitions originales, ont été réduites en cendres. Une perte importante dans la connaissance de celui qui fut l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle.
De nombreuses médailles olympiques défectueuses sont renvoyées au comité d'organisation des JO.
Oui, à cause de craquelures et de taches apparues quelques jours après l'événement, une centaine d'athlètes ont déjà retourné leurs médailles. Ce défaut de fabrication serait lié à un problème de vernis mal géré par la Monnaie de Paris. L'institution veille de près de 12 siècles, voit donc sa réputation fortement ébranlée par cette affaire. Les athlètes concernés n'ont en effet pas hésité à afficher leur mécontentement sur les réseaux sociaux. 3 responsables de la production ont été limogés, mais aucune solution n'a été trouvée pour le moment.
Et pour finir, Marie, la collection Quarto vient de fêter ses 30 ans.
Poésie, roman, mémoire, science-fiction ou encore philosophie. Cette collection, créée en 1995 par Gallimard, édite depuis 30 ans les grands noms de la littérature, sans distinction de genre ni d'époque. Chacun de ses ouvrages est étayé par des archives permettant de mieux comprendre l'œuvre à partir d'éléments biographiques et contextuels sur la vie de l'auteur. Et pour cet anniversaire, Quarto vient de publier ce mois-ci un recueil de romans et des nouvelles de l'écrivain américain Jim Harrison.
Merci Marie Sorbier, et puis à lundi.
Bon week-end.
En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.